Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de la série que nous continuons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous.
L'Église est le corps de Christ. Voici le sujet de notre discussion. Qu'avons-nous appris à ce sujet la dernière fois?
Oui, dans le 12e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens, où l'apôtre développe cette notion que l'Église est le corps de Christ, nous avons parlé de l'unité de l'Église et de la solidarité vécue par ses membres, malgré la diversité et les différents arrière-plans de chacun.
Et aujourd'hui, nous continuons sur ce même thème, l'Église et le corps de Christ.
C'est exact, Yann. Nous nous appuyons toujours sur les écrits de l'apôtre Paul, mais aujourd'hui, c'est sa lettre adressée aux Colossiens qui retiendra notre attention. Cédons la parole à Janine pour la lecture des versets 15 à 20 du chapitre 1.
Ce Fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix.
Paul fait l'éloge des qualités de Jésus-Christ, de son statut et son pouvoir. Jésus est au centre de tout. Il est le souverain roi, le créateur de toutes choses. De plus, il est notre rédempteur, le sauveur des hommes, du fait de son sacrifice sur la croix.
Oui, Paul nous donne un aperçu de la majesté et de la gloire de Jésus-Christ. Toutefois, dans sa description, un verset nous intéresse tout particulièrement. Paul déclare que le Christ est la tête et que l'Église est son corps. L'Église est le corps de Christ et Christ est la tête de ce corps. Voici la vérité qui va retenir notre attention aujourd'hui.
Quel est le sens de cette affirmation?
Paul définit la relation entre l'Église et Jésus-Christ et il présente Jésus comme le chef de l'Église. Prenons l'exemple du corps humain. Nous savons que les décisions s'élaborent au niveau de notre cerveau qui se trouve à l'intérieur du crâne dans notre tête. De plus, c'est notre cerveau, par le biais du système nerveux, qui dirige et oriente tous les membres et organes qui composent notre corps. Votre famille a-t-elle besoin d'être nourrie? La décision de leur préparer un repas se construit au niveau de votre cerveau, ainsi que le choix des plats selon les aliments disponibles. Ensuite, votre cerveau coordonne et oriente vos membres dans tous les petits détails nécessaires pour une bonne cuisine. Les moindres gestes des doigts, des mains, des bras, des yeux et ainsi de suite sont maîtrisés et commandés par le cerveau. On peut dire que la tête décide et que le corps suit.
Et comment appliquer cette illustration à la relation qui existe entre Christ et l'Église?
Nous pouvons l'expliquer ainsi. Là où Jésus se rend, nous devons le suivre. Notre relation envers lui doit être une relation de soumission et d'obéissance, motivée non pas par la peur mais par l'amour. En Colossiens chapitre 1, l'apôtre Paul souligne que Christ est au centre de l'univers. Il est le souverain roi. Il est divin et éternel. Tout dépend de lui. Et au sein de toute cette création, riche par sa diversité, sa complexité et sa grandeur, l'Église a une place privilégiée. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes mystérieusement et intimement unis à Christ. Et comme le corps dépend de la tête et accomplit sa volonté, nous devons vivre soumis à Christ et avoir comme principal souci et objectif celui de faire sa volonté. Ainsi, le chrétien n'est ni autonome ni indépendant. L'Église universelle non plus n'est ni autonome ni indépendante. Et il en est de même pour les églises locales. Il est essentiel en toutes circonstances, en tout temps, de comprendre quelle est la volonté de Christ pour son corps, l'Église.
Et pouvez-vous nous dire quelle est au juste la volonté de Christ pour son corps, l'Église ?
Nous devons rechercher la sainteté, la justice, la droiture, l'intégrité et la pureté.
Mais comment atteindre ces qualités ? En quoi consistent-elles ?
Nous découvrons la richesse de ces qualités en lisant la Bible. À travers elle, Christ, notre tête et notre chef, nous parle et il nous parle personnellement. Il nous aide à comprendre ce qu'est une vie juste et pure en lisant la loi de l'Éternel, en consultant la sagesse de Dieu et en contemplant la vie de Christ. Nous trouvons tous ces trésors dans la Bible. Nous y apprenons aussi comment agir en tant que corps de Christ, comment vivre en communauté dans l'Église locale. Toutefois, je voudrais parler à présent de notre engagement dans la mission de Jésus-Christ telle qu'elle est définie dans Colossiens chapitre 1.
Je vous en prie, expliquez-vous.
Paul nous explique que Christ veut réconcilier l'univers entier avec lui. Si nous sommes unis à Christ, que nous sommes son corps, cela signifie deux vérités. Tout d'abord, nous sommes réconciliés avec Christ grâce à son sacrifice sur la croix. Et ensuite, nous sommes son corps, nous participons, parce que nous lui sommes soumis, à cette mission merveilleuse de réconciliation. Christ règne à partir des lieux célestes et sur la terre, puisque nous sommes son corps, c'est-à-dire ses pieds ou ses mains. Nous devons accomplir sa volonté et le laisser nous diriger, car il est notre tête.
Dites-nous en davantage sur ce ministère de réconciliation.
La réconciliation, c'est établir la paix. C'est promouvoir l'harmonie là où existent la rupture et la haine, la discorde et les tensions. Les relations brisées et la douleur qui en découle existent du fait de la présence du péché. Le mal domine les cœurs et il nous empêche de nous entendre les uns avec les autres. Des conflits et des ruptures de relations existent à tout niveau, sur le plan international aussi bien que sur le plan familial. Cependant, la rupture la plus grave de toutes est celle qui se dresse entre Dieu et l'humanité. L'œuvre de Christ est surtout une œuvre de réconciliation. Grâce à son sacrifice sur la croix, il est dorénavant possible de se réconcilier à Dieu. L'Église, le corps de Christ, participe à cette mission de réconciliation. La tête, c'est-à-dire Jésus, coordonne, oriente et dirige les membres en vue de réaliser cette volonté de réconciliation. Christ nous envoie pour appeler les hommes et les femmes à se réconcilier avec Dieu. Puis en travaillant pour la réconciliation parmi les hommes, nous devenons des bâtisseurs de paix. Bien sûr, chaque chrétien ne joue pas exactement le même rôle, comme il en est au niveau du corps humain. Cependant, chacun contribue selon ses dons, selon ses aptitudes et disponibilités, à ce grand objectif merveilleux, la réconciliation de l'univers. C'est à chacun de discerner sa place et son rôle dans cette mission glorieuse. Mais nous devons réaliser ce projet en soumission à Christ et en communion avec l'Église locale. Nous ne sommes pas autonomes. Nous sommes le corps de Christ, il est notre tête, il est notre chef.
Merci Alain pour cet enseignement important. Vous serez de retour la prochaine fois pour parler une dernière fois de cette image de l'Église en tant que corps de Christ.
C'est exact, Yann. Je vous encourage tous à être fidèles à ce rendez-vous. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Merci Alain et à bientôt. À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean et nous revenons sur le texte difficile qui se trouve au chapitre 3, des versets 4 à 9. Sandra nous lira ces versets et ensuite Claude nous fera part de ses commentaires.
Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pèche pas, et celui qui pèche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu.
Bonjour à tous. Nous revenons sur ces versets qui peuvent troubler certains croyants. Pourquoi ? Parce que Jean semble suggérer que le chrétien authentique ne commettra plus jamais de péché, alors que notre expérience suggère que cela relève de l'impossible, tant nous sommes en lutte constante avec le péché. Pour mieux comprendre le sens de ces versets, il faut rappeler le contexte spirituel de cette première épître de Jean. L'apôtre écrit à des croyants secoués par les dires et les actions de gens qui ont quitté leur église. Ils prétendaient en effet que leur enseignement était supérieur au leur. Jean leur écrit donc pour les rassurer et fortifier ces chrétiens qui sont demeurés fidèles au message annoncé par les apôtres. Jean ne leur écrit pas pour les troubler, mais pour apaiser leur esprit et les réconforter. Il est probable que les faux enseignants annonçaient un message assez particulier concernant le péché. Un message qui allait dans ce sens. Tant que votre esprit est en communion avec Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce message laisse la porte ouverte au péché. Il suggère que nous pouvons agir comme bon nous semble, que nous n'avons à nous soucier ni de la repentance, ni de la poursuite de la sainteté. Ce mauvais message affirme que nous pouvons continuer à poursuivre n'importe quelle conduite désastreuse, sans jamais en récolter les conséquences, ce que Jean dénonce. Dire que nous pouvons continuer à pécher sans nous en inquiéter, sans mener un combat pour enrayer le mal, s'appelle le libertinage. Selon Jean, ceux qui pratiquent et enseignent ce genre de doctrine ne connaissent pas Dieu. Ils appartiennent encore au diable. Il faut dénoncer et s'éloigner de toute doctrine qui justifie la pratique du mal. La prochaine fois, nous nous pencherons sur la signification du verbe « s'adonner au péché ». En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir.
Merci Claude de nous avoir éclairé sur la situation des chrétiens à qui Jean a adressé cette lettre. Que ses paroles rassurent, qu'elles donnent du discernement dans un monde où il existe encore beaucoup de faux prophètes et de faux enseignants.
Merci Hélène, c'est ainsi que nous terminons notre émission. Mais nous poursuivrons nos deux séries la prochaine fois. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.